Bonjour, je suis Jean-Mathieu Pernin. Bienvenue dans Libellisé, le podcast de Libération qui vous raconte la présidentielle. Depuis le mois de février, nous vous relatons les coulisses de cette course à l'Élysée où entre coups bas, combats d'égo, ralliements et même un chien électeur pendant les primaires LR, il s'est passé quelques petites choses. Dimanche, on vote pour le premier tour et Libellisé vient vous a proposé de revenir chaque jour de cette semaine sur la campagne d'une ou d'un candidat vu par la ou le journaliste qui l'a suivi au plus près. Aujourd'hui, Marine Le Pen. Et le journaliste qui a été au plus près de la candidate, c'est toi, Nicolas Massol. Salut.
Salut.
Pour toi, quel a été le moment marquant de la campagne de Marine Le Pen ?
C'est difficile de trouver un moment marquant de la campagne de Marine Le Pen, puisque cette campagne a précisément eu pour objectif d'être la moins marquante possible, la moins clivante possible, la moins polarisante possible. Donc, en fait, c'est ce qu'on a écrit, c'est une campagne qui s'est voulue un petit peu chiante. Ceci dit, il y a eu un moment marquant, c'est une petite dizaine de minutes à la fin de son meeting de Reims, le 5 février. C'est le grand meeting, donc 4500 personnes à Reims, le grand meeting qui doit lancer la dernière ligne droite vers la présidentielle. Marine Le Pen fait un discours fleuve d'une heure où elle ratisse vraiment tous ses thèmes. Et à la fin, elle s'avance derrière son pupitre et elle se met à parler d'elle-même, en fait, de ses malheurs d'écolière, de ses problèmes, du fait que ses parents ont eu un divorce surmédiatisé. Enfin bref, on n'est plus du tout dans le domaine de la politique, on est dans le domaine personnel. Et c'est marquant au sens où elle n'avait jamais fait ça dans cette configuration-là, parce que ça fait très longtemps qu'elle parle, qu'elle utilise sa vie privée et ses malheurs d'écolière, d'enfant, de Le Pen, etc., pour, à des fins politiques, depuis son autobiographie qu'elle avait écrite dans les années 2000. Mais là, en direct comme ça, avec un air a priori naturel, non, jamais. Puis c'est marquant au sens où c'est révélateur de sa campagne, qui a été assez finalement dépolitisée, centré sur sa personne pour en fait éviter de parler de ces thèmes qui sont possiblement clivants, quoi.
A-t-elle réussi à imposer ces thèmes ?
Alors, est-ce qu'elle a réussi à imposer ses thèmes ? En tout cas, ses thèmes se sont imposés. C'est-à-dire que Marine Le Pen a eu l'intuition, ça il faut lui reconnaître, dès septembre, de parler de pouvoir d'achat. C'est un vieux thème du Front National. Le pouvoir d'achat, c'est dès les années 90. Simplement, Marine Le Pen, dès septembre, elle choisit de parler de renationalisation des autoroutes pour rendre de l'argent aux Français, de rendre un petit peu d'argent en privatisant l'audiovisuel public et donc en leur rendant la redevance. Et en fait, ça prend pas trop, etc. Et puis, l'immigration, l'insécurité face à la guerre en Ukraine, face à la montée des prix, face à la crise, on s'est aperçu que ça ne prenait pas et que c'était le pouvoir d'achat. Donc, en fait, son thème s'est imposé.
Croit-elle à sa victoire ?
Je pense que oui. Je pense que oui, parce qu'elle est, elle s'en approche. Toutes les conditions, quand même, sont réunies. Un président Macron détesté, un Front républicain qui est absolument affaissé, une dédiabolisation à outrance. Et puis, elle n'a jamais été aussi haute, dans les sondages. Donc oui, je pense qu'elle croit à sa victoire. Et en tout cas, ses partisans y croient. Jeudi soir, à Perpignan, se tenait le dernier grand meeting. Environ 3000 partisans. On était dans une atmosphère de liesse, peut-être un peu prématurée, mais en tout cas, ça, on y croyait, je pense.
Quelles ont été ses principales difficultés à Marine Le Pen dans cette campagne ?
Les principales difficultés qu'on a cru voir, à savoir, elle a dû subir un certain nombre de ralliements de son camp vers Zemmour. Ça, c'est ce qu'on a cru être une difficulté pour elle. En fait, ça ne l'était pas du tout, puisque ça lui a permis de se débarrasser de gens qui étaient en fait plus à droite qu'elle, qui étaient en fait pas forcément soit les plus assidus comme Gilbert Collard, soit les plus fidèles comme l'eurodéputé Nicolas Bay. Donc en fait, c'est pas du tout ça les principales difficultés. Ses principales difficultés, c'est tout simplement le manque d'argent. Ils n'ont pas trouvé d'argent pour se financer leur campagne avant janvier. Les caisses du parti sont vides, il n'y a pas de militants, il n'y a pas de cadres. Donc en fait, on ne le voit pas vraiment parce que Marine Le Pen a habillé tout ça en disant qu'elle voulait faire une campagne de proximité, mais en fait, ça lui a quand même causé soucis, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas pu faire ce qu'ils voulaient, quoi.
Comment Marine Le Pen a-t-elle vécu cette troisième campagne présidentielle personnellement ?
C'est compliqué à dire. En tout cas, ce qui était dit et ce qu'on nous a répété à longueur de journée pendant 6 mois, plus de 6 mois, c'est qu'elle était heureuse, c'est qu'elle était bien. Pourquoi ? Parce qu'en 2012, c'était la campagne à l'ombre du père. En 2017, c'était la campagne tiraillée entre Philippot, donc une ligne un peu nationale, populiste, souverainiste d'un côté, et la ligne un peu libérale, réactionnaire de sa nièce. Donc en fait, elle n'était pas vraiment elle-même, elle se sentait mal, d'ailleurs elle a raté son débat. Cette fois, c'est vraiment Marine Le Pen. C'est ses thèmes, elle se fait confiance, elle s'est débarrassée de son parti, elle le dit elle-même, elle dit qu'est-ce que ça me fait du bien, je me suis débarrassée de mon parti, j'ai pas à leur rendre de compte, le parti c'est à côté, c'est Jordan Bardella, moi maintenant je fais ce que je veux. Donc. Et finalement en fait j'ai plutôt tendance à la croire puisque dans les moments de off où on a pu échanger, je l'ai trouvée assez détendue. Après je pense que les ralliements de vers Zemmour ne lui ont pas toujours fait plaisir.
Y a-t-il un événement en coulisses qui pourrait résumer sa campagne ?
Je pense que la séquence Marion Maréchal peut résumer la campagne de Marine Le Pen. Pourquoi ? Parce qu'on a le visible, ce que tout le monde en fait a vu, à savoir Marion Maréchal, la nièce de Marine Le Pen, qui avait quitté la politique en 2017, revient et dit finalement je soutiendrai le mieux placé, puis finalement je ne soutiendrai pas ma tante, puis finalement je soutiens Zemmour. Donc là on a l'impression en fait la fautive, l'ingrate dans l'histoire, c'est Marion Maréchal. Et en fait Marine Le Pen a parfaitement joué de ça, parce qu'en coulisses en fait elle s'est activée pour déminer ce ralliement, en commençant par lancer des offs dans la presse pour la faire sortir du bois, pour faire sortir Marion Maréchal du bois, en la poussant finalement dans les bras d'Éric Zemmour, et elle-même, Marine Le Pen, devant les caméras, jouait la tante éplorée, trahie, qui a élevé et porté sur son sein la petite Marion Maréchal. Et donc en fait, je trouve que ça résume assez bien la campagne. Pourquoi ? Parce que Marine Le Pen finalement est sympathique, alors que fondamentalement, genre c'est elle qui a un petit peu provoqué, on va dire, les choses, qui a un petit peu persécuté politiquement, en tout cas sa nièce, quand elle était dans son parti. Donc en fait, il y a une image trompeuse de Marine Le Pen. Et ça révèle aussi à quel point Zemmour a fait les affaires de Marine Le Pen. C'est-à-dire que si Zemmour n'avait pas mis en scène les ralliements, y compris de la nièce de Marine Le Pen, est-ce que Marine Le Pen aurait été si sympathique ? C'est-à-dire que la majorité des gens, quand ils voient ça, ils se disent « bon, la pauvre Marine Le Pen quand même ». Et Marine Le Pen n'est pas pauvre du tout. Mais en tout cas, merci Zemmour pour elle, quoi.
Si jamais Marine Le Pen ne gagne pas cette élection présidentielle, compte-t-elle jouer encore un rôle dans la politique nationale par la suite ?
Alors, il y a quelques semaines, quelques mois, je t'aurais dit non. Mais là, c'est de plus en plus clair. C'est-à-dire qu'au départ, c'était « si je perds, je ferai autre chose ». Là, c'est « a priori, je ne me représenterai pas une quatrième fois à la présidentielle ». Et puis, à Reuters, elle a dit que, dans une interview à Reuters, elle dit que finalement, elle verrait qu'elle sera là où elle est la mieux placée, là où elle sera le plus utile. Ce qui veut dire qu'en fait, elle restera, quoi.
Une dernière chose, Marine Le Pen est-elle une candidate facile à suivre ?
En tout cas, autour d'elle, il y a eu une vraie stratégie dans son équipe de campagne pour faire que les journalistes se sentent bien. Pendant très longtemps, c'était la guerre entre la presse et le FN. Là, il y a une nouvelle attachée de presse dont le job est de faire que ça se passe bien. Pourquoi ? Parce que si ça se passe bien entre la presse et Marine Le Pen, eh ben, les articles sont plus gentils. Et elles le disent comme ça. Alors, ça n'empêche pas que Marine Le Pen reste l'extrême droite et que l'extrême droite a toujours, on va dire, des réflexes. Par exemple, mon collègue Tristan Berthelot s'est fait éjecter d'un off avec Marine Le Pen. Donc, seule Libération s'est fait éjecter de ce off. Au prétexte qu'on aurait, pour un prétexte fallacieux qui est en fait Marine Le Pen ne voulait pas voir Libération, qui avait révélé qu'elle touchait toujours un salaire de 5000 euros pour un poste qu'elle n'occupait plus au Rassemblement National. Donc ça reste ça, mais finalement c'était plus difficile du côté de Zemmour.
Eh bien, merci Nicolas. C'est la fin de ce Libellisé spécial premier tour. Toute la semaine, vous avez pu entendre les voix de ceux qui ont suivi au plus près les principaux candidats, qui ont arpenté les coulisses de cette élection depuis des mois. La musette pleine d'anecdotes est toujours en pleine forme. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur votre application de podcast et sur libération.fr. Un bon podcast avant d'aller voter. Toujours le mot d'ordre de Libellisé.